Ce petit livre qui s'appelle la Bible, et ce petit livre-là qu'on appelle le Concile Vatican II, les actes du Concile Vatican II, et en particulier sa constitution dogmatique qui s'appelle Lumen Gentium, ce qui veut dire lumière des peuples, ou lumière des nations, ce qui est le Christ. Puisque le Christ est la lumière des nations, ce concile, assemblé dans l'Esprit Saint, souhaite, par l'annonce de l'Évangile, faire briller sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église. Et en fait, là, on a une image qui est tout de suite donnée, c'est si le Christ est le soleil, l'Église est la lune. Et lorsqu'on regarde la lune, on voit la lumière du soleil. Ce qui est une image ancienne donnée par pas mal de pères de l'Église. Toute petite chose, dans l'histoire de l'Église, entre le 1er et le 8e siècle, on a choisi la réflexion théologique, c'était le Christ. Qui est Jésus ? Donc on a découvert qu'il était fils de Dieu, qu'il était pleinement homme et pleinement Dieu, qu'il était consubstantiel au Père, qu'il avait une volonté humaine et une volonté divine, mais qui fonctionne dans un accord parfait. Et ça a été des débats qui ont duré 8 siècles, des conciles qui ont été parfois violents, disons au 7e, 8e siècle, tout le monde tombe à peu près d'accord pour dire qui est Jésus. Ensuite, la deuxième période de l'histoire de l'Église, la réflexion, c'est comment est-ce que Jésus agit ? Comment est-ce que le Christ agit dans le monde ? Et donc, on va avoir deux grandes idées de réflexion. L'idée de la réflexion sur la grâce, ce qu'on appelle la grâce, donc l'action de Dieu dans les cœurs, par l'Esprit Saint. Et puis, l'action des sacrements. Et ça, cette réflexion, elle se conclut avec le Concile de Trente au XVIe siècle. Et puis après, on entre dans... Alors, évidemment, quand on réfléchit sur la grâce et les sacrements, on est obligé de repenser à nouveau frais ce qu'on avait déjà pensé sur le Christ, forcément. Et puis, depuis le XVIIe siècle, depuis la grande division de l'Europe, de la chrétienté en Occident, entre protestants et catholiques, on a commencé à réfléchir sur, tiens, qu'est-ce que c'est que l'Église ? Et l'Église, du coup, comment le Christ se montre ? On cherche à répondre à cette question-là, quoi. C'est la première question, c'est qui est Jésus. Deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il fait. Et troisième question, comment est-ce qu'il se montre. Et il faut 4 siècles de réflexion sur cette idée. Et c'est ce qu'on appelle l'ecclésiologie, l'étude de l'Église. Voilà. Alors, voilà, là je vous ai posé un cadre intellectuel de haut niveau. Ça me rappelle les cours que je suivais moi-même au séminaire. Voilà. Concrètement, lorsqu'on parle de l'Église, lorsqu'on dit « je suis chrétien », les gens ils vont vous répondre « oui, moi aussi je suis chrétien, mais je vais pas à l'Église. Hein. » Je vais pas à l'Église parce que l'Église d'abord c'est hypocrite et compagnie. Les gens ils ont des phases et ils sont là. Hein, vous connaissez, vous avez déjà eu ces reproches-là. Hein. Des réactions hypocrites. L'Église, il y fait froid, c'est moche, c'est trop grand, l'ambiance elle est poussiéreuse et morne. C'est vrai que les gens ils vont dans 90% des cas pour des enterrements, donc c'est sûr que on se route pas sur les hôtels ce jour-là. Quand on pense l'Église, on pense quoi ? On pense aussi une hiérarchie ecclésiastique pesante. C'est que des vieux, de toute façon, qui sont complètement perdus et pas du tout dans le mouvement. Bon, complètement déconnectés du réel, quoi. Alors évidemment, toutes ces images-là, en fait, on va avoir du mal à répondre point par point, parce que oui, effectivement, il y a des hypocrites dans l'Église. Oui, effectivement, nos célébrations sont pas toujours... On n'a pas toujours des phases de ressuscité. Parfois, on a des phases de... Comme dit le pape François, des phases de carême sans Pâques. Il y a une institution qui, parfois, est un peu lourde, parce que elle est pleine d'hommes, et que les hommes ont une capacité à ralentir tout ce qui fonctionne. Donc du coup, il faut pas. Si on cherche à répondre point par point, ça va pas marcher. Donc du coup, on va plutôt s'intéresser aux images de l'Église qui nous sont données par la Bible par le Concile Vatican II, par le catéchisme, et puis par notre expérience. En fait, ça se rejoint, hein, par notre expérience. La grande nouveauté du Concile Vatican II, c'était de présenter l'Église comme le peuple de Dieu. Ça, c'est une grande nouveauté. Alors, on en avait parlé avant, hein, mais c'est la première fois que ça vient prendre place dans un texte sorti de Rome, etc. Enfin, peuple de Dieu, et donc c'est une image dynamique. L'autre image forte qu'on utilise beaucoup, c'est celle du corps du Christ. Mais le corps du Christ, c'est une image plus statique, quoi. Le peuple, c'est le peuple en marche. Et du coup, on va chercher dans la Bible, on va trouver dans le livre de l'Exode, on trouve le peuple hébreu qui était esclave en Égypte. Eh bien, quand il est esclave en Égypte, on parle d'un ramassis de gens, et puis il franchit la mer Rouge, et là, le peuple rassemblé s'écrie et chante. Il s'est débarrassé du cheval et du cavalier. Là. C'est voilà, il y a un vrai saut qualitatif à ce moment-là. Voilà. Parce que ce tas de gens a été ecclésia appelé. C'est le sens du mot ecclésia. Ça veut dire appelé, convoqué. L'ecclésia chez les Grecs, c'était l'appel des soldats, quoi. À la base, dans le premier sens, quoi. Donc c'est une idée forte, hein. Là, on vient d'entendre ces jours derniers, on avait les dimanches, ces derniers dimanches, on a entendu les appels des apôtres. Ça fonde l'Église, parce que l'Église, c'est le club des appelés, justement. Donc, peuple de Dieu, peuple en marche, peuple qui marche dans le désert, il marche comment ? Eh bien, il a la colonne de nuée ou la colonne de feu devant lui, selon si c'est le jour ou la nuit. Donc, il suit Dieu. Il a au milieu de lui, il a la tente du rendez-vous qui est portée tous les matins et puis qui est plantée tous les soirs. Voilà. Donc Dieu est au milieu de son peuple et on est en déplacement et on s'en va vers la terre promise, quoi. Voilà. Comment est-ce qu'on devient, comment on devient membre de ce peuple ? Ben, la première raison, est-ce qu'on est chrétien à la naissance, demande le catéchiste ? Et l'enfant répond « Non, à la naissance, on est normal. On devient membre parce qu'on est par le baptême, parce que Dieu fait de nous un membre de ce peuple. Une naissance d'en haut. On reçoit l'Esprit de Dieu. Baptisé, hein, vous le savez, hein, ça veut dire plonger. Donc on plongeait en entrant dans l'eau, on fait comme le peuple, comme le ramassis de gens hébreux, et ben on disparaît en tant que ramassis de gens, on meurt et pour ressusciter avec le Christ comme membre de son peuple. Voilà, et puis un peuple ça implique du monde. On n'est pas un peuple à deux, on n'est pas un peuple à dix. Pour être un peuple, il faut être plus que ça, et ça tombe bien parce que les chrétiens, on est 2 milliards à peu près. Donc on est vraiment un peuple avec une diversité. Et donc avec une diversité, avec des réalités différentes, et voilà, des lieux où il y a des persécutions, des lieux où ça se passe bien. Et tous ces chrétiens, membres du même peuple, ils sont en route vers le même chemin, sur le même chemin, quoi. Et le but, c'est la terre promise, ben, le Christ. Voilà. Alors en fait, ça, donc, dans Lumen Gentium, c'est le chapitre 2. Donc il y a 10 numéros. C'est un gros morceau, cette réflexion sur le peuple de Dieu. Saint-Pierre a écrit une lettre. La première lettre de Saint-Pierre au chapitre 2, verset 9. Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple saint, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Vous n'aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant vous avez obtenu miséricorde. On reviendra sur cette idée-là. C'est Saint-Pierre, premier pape, qui définit l'Église comme un peuple de Dieu, qui est peuple parce qu'il est convoqué par le Christ. Ça, c'est une première image. Deuxième image, auquel le Concile Vatican II fait allusion, mais ne développe pas, mais c'est le fait que l'Église est une famille. L'Église se caractérise parce que ses membres sont fils du Père. Et donc, si on est tous fils du même Père, bah, par logique, on est donc frères et sœurs. On ne s'est donc pas choisi, ce qui est une petite difficulté supplémentaire. Voilà. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, tout à fait. Ceux qui sont mes frères et mes sœurs, ma mère, mon frère et mes sœurs, ma mère, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique. Donc, du coup, donc ça vaut le coup de faire connaissance avec les gens, parce qu'ils sont tous appelés. Ça, c'est la caractéristique essentielle, c'est que tout le monde est appelé à faire partie de l'Église. Donc, ça vaut le coup de faire connaissance, parce que c'est au moins potentiellement tous des frères et sœurs. Voilà, même quand des frères et sœurs se disputent ou ne se voient pas, ils restent frères et sœurs. Ça, c'est une réalité qui ne dépend pas d'eux, finalement. Alors, c'est mieux quand ça se passe bien, quand chacun fait le choix de ça, que ça se passe bien. Voilà. Cette semaine, c'est la semaine pour de prière pour l'unité des chrétiens. Donc, c'est une bonne occasion pour prier pour cela. Au cours d'une réunion de prière, un catholique demande à sa voisine : « De quelle confession êtes-vous ? » ?»« Je suis évangélique, » répond-elle. « Évangélique ? Comment peut-on être évangélique ?» Alors elle répond : « Mon grand-père était évangélique, mon père était évangélique, je suis évangélique. » C'est pas une bonne raison. Si votre père et votre grand-père avaient été des imbéciles, vous seriez quoi ? Et elle répond : « Catholique, je pense. » De fait, une famille est souvent, et puis c'est un reproche qu'on nous fait et qui est pas faux, c'est que ce qu'on voit d'abord dans l'Église, c'est sa division. Alors, on la voit, les grandes divisions historiques, les orthodoxes et les orientaux et les occidentaux, et donc orthodoxes et occident, au sein des occidentaux, protestants et catholiques. Alors déjà, ça, c'est les ruptures historiques. Mais en plus, on s'en rajoute quand même. On a quand même un certain talent pour mettre des points de dispute là où peut-être que ça vaut pas le coup, quoi. Alors du coup, il faut écouter saint Paul qui nous dit dans Éphésiens : « Appliquez-vous à préserver l'unité par le lien de la paix. Car il y a un seul corps, un seul esprit, vous avez été tous appelés à une même espérance, un même Seigneur, une même foi, un même baptême, un Dieu et Père de tous. » Dieu aime, nous aime tous, chacun, ses enfants, nous sommes ses enfants et nous sommes invités à entrer dans son regard à lui. Mais en même temps, l'Église est née au pied de la croix. Il y avait 12 apôtres, il en restait un au pied de la croix, qui n'avait même plus la foi. Il restait Marie, quoi. Bon. Donc une même famille, et l'Église, c'est aussi une communauté de vie. Donc toujours dans cette idée de famille, on est invité à vivre ensemble. C'est peut-être le plus difficile. Alors d'abord, avant de vivre ensemble, on est déjà invité à vivre avec Jésus-Christ, à mettre Jésus-Christ dans nos vies. En fait, lui, il frappe à la porte de notre cœur. Est-ce qu'on le laisse rentrer ? Et ensuite, le moyen d'accueillir Jésus-Christ dans ma vie, eh bien, c'est à la fois en direct, on va dire, et à la fois par les autres. Et donc, on est invité, tout saint Paul le répète à une longueur de phrase, comme saint Jean, comme saint Jacques, il faut nous aimer les uns les autres, il nous faut ne pas médire les uns des autres, ne pas se juger. Au contraire, porter les fardeaux les uns des autres, ça c'est dans Galates 6.4, nous pardonner les uns les autres, nous accepter les uns les autres, etc. Un chrétien avait perdu sa ferveur, et donc c'est une histoire des pères de l'Église, des pères du désert. Un disciple a perdu la ferveur, et il va voir un vieux père, âgé et sage, et puis le vieux père, ils sont près d'un feu, et le chrétien ne répond, le vieux ne répond pas, en fait. Il prend juste une braise du foyer et il la sort du foyer. Alors, ce qui se passe, c'est que la braise, elle faiblit, quoi. Et puis, quand elle commence à être quasiment au bord de la mort, il la remet dans le feu et là, elle reprend vigueur. si on veut que notre vie chrétienne soit vivante, il faut le faire avec les autres, en fait. On peut pas. Ouais, ça peut pas être. C'est pas que nous, c'est pas que moi. C'est très intéressant d'ailleurs de voir le mouvement de la liturgie dans son ensemble. Ça, je pourrais en parler des heures. Mais le mouvement de la liturgie, on passe vrai. C'est du nous. Il y a un je. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et ensuite, c'est nous. Parce que on est vraiment invité à avancer ensemble. Il y a quand même ce moment de rencontre personnelle avec le Christ. Et puis après, on est établi, peuple et uni par lui. Donc, à nouveau, nous. Sur l'image du peuple de Dieu, c'est la procession d'entrée. Hein, la procession d'entrée, on n'accueille pas le célébrant. La procession d'entrée, c'est le peuple en marche qui suit la croix. Et en fait, si on pouvait renouveler tous les dimanches ce qu'on fait au rameau, ça serait bien. Ou ce qu'on fait à Pâques, ça serait bien. Bon, ça serait un peu compliqué, on se lasserait peut-être un petit peu, parce que ça prendrait un peu un quart d'heure chaque fois. Mais en soi, voilà, c'est quand on se lève pour le chant d'entrée, on est dans l'esprit de l'entrée à la suite du cierge pascal ou des rameaux. Voilà. Du coup, là, on en parlait de la famille. Alors, une image qui est très forte, hein, qui est là vraiment, vraiment néo-testamentaire, c'est saint Paul qui l'utilise largement et puis il la reprend plusieurs fois. 1 Corinthiens 12. Prenons une comparaison. Si vous avez été à quelques baptêmes, c'est en dernier, vous l'avez entendu forcément, parce que... Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain ne se compose pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps », il fait pourtant partie du corps. L'oreille aurait beau dire « Je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps », elle fait pourtant partie du corps. Si dans le corps il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir? Mais dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. S'il n'y avait en tout qu'un seul membre, comment cela ferait-il un corps? L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », la tête ne peut pas dire au pied « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates et les plus fragiles sont les plus indispensables. Celles qui passent pour le moins honorables, ce sont elles que nous traînons avec le plus d'honneur. Donc pour... Voilà, c'est un peu le développe. Hein. Or, vous êtes le corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Voilà, ensuite, il fait le point. Parmi ceux que Dieu a placés dans l'Église, il y a les apôtres, les prophètes, ceux qui ont la charge d'enseigner, ceux qui ont le don de miracle, le don de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler des langues... Tout le monde n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas prophète, ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire de miracles, ni à guérir, ou à dire des paroles mystérieuses. Recherchez donc, avec ardeur, les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence, et c'est ensuite l'hymne à la charité. Ça, c'est le don qu'on est tous invités à vivre, par contre. C'est en ayant médité beaucoup cela que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dira, dans le cœur de l'Église, je serai l'amour. Et finalement, elle dit, je choisis tout, je veux vivre toutes les vocations, comme matériellement je ne peux pas être tous les membres à la fois, je vais vivre pleinement ce qui fait le cœur de la vocation de chacun. D'abord. Ça intéresse, c'est... Donc, un corps du Christ. Chaque partie du corps est indispensable, un curé raconte, un membre de notre paroisse est venu se plaindre. Un homme avait besoin d'être logé, nourri, le temps de se ressaisir et trouver un travail. J'ai appelé la paroisse, mais personne n'avait le temps de m'aider. J'ai dû l'héberger une semaine. Vous ne croyez pas que l'Église devrait prendre soin de ces gens-là? Le prêtre a répondu, il semble que l'Église en a pris soin. Nous sommes l'Église. Chaque fois qu'un chrétien fait un acte de charité, c'est l'Église qui le fait. Et cette Église, elle se manifeste, elle est concrète, elle est réelle, elle se manifeste dans la paroisse. Alors la paroisse, hein, c'est comme toute assemblée, communauté chrétienne, on a surtout envie d'en voir les défauts, d'ailleurs on les voit très très bien les défauts. Et on peut faire la liste des défauts, des trucs qui vont pas. Une pizza, une paroisse, c'est pas moi qui le dis, ça. Une paroisse n'est pas la pizzeria du coin. Quand la pizzeria n'est pas bonne, on va à celle d'à côté. Une paroisse, en principe, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Votre paroisse a des défauts. Plutôt que de la quitter d'un air indigné, posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire pour aider à ce que ma communauté soit plus accueillante, plus aimante, plus chaleureuse, plus priante, plus proche du Seigneur et des hommes de notre entourage? Voilà, et donc du coup, on est invité vraiment à matérialiser, à rendre concret cette existence corporelle en se retrouvant le dimanche. C'est intéressant, hein, l'Église nous demande d'assister à la messe du dimanche. Et en fait, quand on regarde vraiment les raisons profondes, et c'était le cas dans les temps anciens, elle ne nous dit pas juste d'assister à la messe, elle nous invite vraiment à assister à la messe paroissiale. C'est-à-dire que si vous avez un cousin qui dit oh, tiens, moi ce dimanche, je vais célébrer la messe dans le salon, juste entre nous en famille, et ben pour un dimanche, c'est pas très juste. C'est la communauté paroissiale qui compte, quoi. Enfin, et il y avait une définition, est-ce que je l'ai entendue celle-là? Enfin, l'Église, c'est le lieu où on écoute la parole et où on reçoit le Christ substantiellement présent, quoi. Voilà, mais la vie chrétienne, elle ne peut pas se limiter à 1 heure le dimanche, hein. Donc il faut l'ouvrir. Voilà, donc il y a toutes sortes, des groupes de partage biblique, des engagements divers et variés. Pour recevoir d'abord, avant de mettre à donner, il faut aussi trouver les lieux de réception. Mais bon, c'est normalement ça fonctionne. Puis de temps en temps, c'est bon d'aller à un grand rassemblement. Pour découvrir que l'Église, elle est plus grande que notre petit trou, quoi. Et donc là, on va aller à Thésée. Et là, on va aller au JMJ, on va aller, voilà. On va vivre un grand moment et on va se rendre compte que bah, l'Église, c'est pas juste la petite communauté locale de Chapelon et de Brignais, avec ses limites et ses défauts. L'Église, c'est beaucoup plus grand et donc. Et on sent corps du Christ, quoi. Dans la diversité des langues et en même temps dans l'unité réelle qu'on essaie de vivre. Quatrième image, c'est une image, alors c'est une image un peu statique aussi, hein, c'est celle du temple saint. Là aussi, on trouve dans Lumen Gentium 6. Le temple, c'est le lieu, dans l'histoire antique, hein, c'est le lieu où réside la présence divine. Le sacré par excellence, il est dans le temple. Et nous sommes membres, nous sommes les pierres d'un temple qui accueille la présence divine. Nous, c'est un temple vivant. Notre église en pierre, on sait bien qu'on n'en a pas besoin pour former l'église. Alors ça va nous aider quand même, c'est pas mal d'avoir un lieu où on se retrouve, où tout est prévu pour que ça marche. Mais en soi, voilà, on peut s'en passer. Après, les anciens nous l'ont transmis, c'est pas pour qu'on le balance à la poubelle, quoi. On va le transmettre à nos successeurs ensuite. Mais voilà. Et donc temple, l'Église est temple de Dieu, temple saint, demeure de Dieu parmi les hommes. C'est Jésus qui dit, hein, qui prêche, hein, le royaume de Dieu est parmi vous. C'est lui. Et donc c'est l'Esprit Saint, hein, qui matérialise cette présence de Dieu, qui nous sanctifie, qui fait de nous ces pierres saintes, qui sommes posées sur la pierre de fondation qu'est le Christ. Et le lieu saint par excellence, la présence sainte par excellence, c'est l'Eucharistie. La scène. Le mémorial de la passion du Christ et de sa résurrection. Voilà. La semaine sainte, le concentré de semaine sainte qu'on vit chaque dimanche, ou plus chaque jour on peut, c'est le cœur de la sainteté de l'Église. C'est pas nous qui sommes saints. Nous, il suffit de se regarder 15 secondes, on se rend bien compte qu'on n'est pas très saints, quoi. Par contre, le Christ, lui, est saint et il habite au milieu de nous. Et sa présence nous rend saints. Alors, c'est un travail. C'est pas magique. Il a besoin de toute notre liberté, toute notre volonté. Et on a un peu de mal à la donner, cette... Ceci est mon corps, donné pour vous. Ceci est mon sang, versé pour vous. C'est une alliance nouvelle et éternelle. Voilà, il y a une, cette dimension d'alliance est importante. Hein. Il y a une... Du coup, cette alliance fait, nous sanctifie. Nous rend semblable à Dieu. Hein. Sanctifier, c'est ça, c'est être rendu semblable à Dieu. Donc, Dieu est amour et donc, du coup, amourifié. Une petite image assez jolie, ce temple de Dieu. Un artiste japonais du XVIIIe siècle avait fait une peinture splendide sur un vase et quelqu'un a fait tomber ce vase. Lentement, il recolle les morceaux en introduisant sur chaque jointure un fil d'or. Et du coup, le résultat fait que le vase est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus beau que l'original. Voilà. Et bien, nous, nos vies, nos relations, quand le pardon vient se mettre, et le pardon de Dieu vient se mettre dans nos vies, c'est ce fil d'or qui nous embellit, nous rend. Voilà, et puis, du coup, voilà, c'est bien. Ceci est mon sang, ceci est la coupe de mon sang, versée pour vous, pour la multitude, pour la rémission des péchés. C'est ça, hein? C'est ça, ce fil d'or. Là, vous ferez cela en mémoire de moi. Alors, quand on dit en mémoire, c'est pas en souvenir, c'est pas un truc passé qui est mort et qu'on rappelle juste dans notre esprit. C'est, au contraire, c'est nous qui faisons un déplacement et qui sommes rendus mis au présent là devant le mystère de la croix, de la scène de la croix et de la résurrection. C'est, quand je ferme les yeux pendant la messe, je me retrouve à la place de Jean et de Marie. Ou de Jean et de Pierre, un peu plus tard. Voilà, et du coup, la célébration de la messe, c'est le Concile Vatican II dans un autre texte, qui est Sacrosanctum Concilium, c'est le texte pour la liturgie. La célébration de la messe, c'est l'Eucharistie, c'est la source, et le sommet de toute vie chrétienne. La source, parce que c'est là que je prends ma force, c'est là que j'emmagasine l'amour, c'est là que je reçois la parole de Dieu, c'est là que je reçois, voilà. Que Dieu me comble et me nourrit et me comble de son esprit qui me pousse. Voilà, du coup, c'est une source. Et c'est le sommet parce que c'est la chose la plus parfaite à laquelle je peux participer sur la terre. C'est le Christ, Fils de Dieu, Dieu lui-même, qui s'offre au Père. Et je suis invité à entrer dans ce même mouvement, à m'offrir avec lui au Père. Et dans Galates, alors c'est la cinquième image, une image de l'épouse du Christ. La lettre, un gros coco Galati. Galates 4, 26. Non, c'est pas celle-là. Ah non, c'est Ephésiens 5, 25. Rien à voir là. Non, épouse du Christ, c'est ce texte qu'on utilise beaucoup pour la préparation au mariage, qui est un peu difficile à recevoir, parce qu'il est compliqué. Marie, juste avant, il y a femme, soyez soumise à vos maris. Et puis ensuite, il y a Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Et s'est donné pour elle, afin de la rendre sainte, pour la purifier avec l'eau et avec la parole, et la présenter à lui-même comme une Église radieuse, sans tache ni ride, sans aucun défaut, sainte et irréprochable. Donc on parle bien de l'action du Christ envers l'Église, c'est bien le Christ qui sanctifie et qui fait de stade Jean que nous sommes une épouse sainte et irréprochable. Avant, je regardais les 20% qui n'allaient pas dans l'Église et ça me pourrissait la vie. Aujourd'hui, je regarde les 80% qui marchent et ça va vachement mieux. Donc évidemment, si on prend le point de vue médiatique, l'Église, c'est pas dans le move, hein. Mais l'Église, elle a les promesses de la vie éternelle, car le Christ l'a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, donc elle durera toujours. Alors, elle sera pas toujours puissante, et d'ailleurs, c'est peut-être pas plus mal qu'elle ne soit pas puissante. Elle ne sera pas toujours visible, elle ne sera pas toujours en paix, elle sera pas toujours. Il y aura peut-être, il y aura, il y a déjà, il y aura encore des disputes au sein de l'Église, etc. Mais c'est le Christ qui nous sanctifie, donc on ne perd pas espoir, on ne perd pas l'espérance. Et je reviens sur cette petite phrase de Saint Pierre, première lettre de Pierre. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Vous n'aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant vous avez obtenu miséricorde. Et là, je vais faire appel à une histoire que raconte Guy Gilbert, qui est une histoire connue, hein. Mais Jean, 20 ans, avait fait une saloperie immonde à ses parents. Et donc son père le chasse. Il dit, on ne remet plus jamais les pieds ici. Tu n'es plus mon fils. Jean est parti, la mort dans l'âme. Quelques semaines plus tard, il se dit, j'ai été la pire des ordures, je vais demander pardon à mon père. Il écrit à son père, papa, je te demande pardon, j'ai été le pire des pourris et des salauds, hein, je cite Guy Gilbert. Mais je t'en prie, peux-tu me pardonner? Je ne te mets pas mon adresse sur l'enveloppe, mais si tu acceptes de me pardonner, mets un foulard blanc sur le pommier qui est à l'entrée de la maison. Je saurai que je peux revenir. Et puis là, il est un peu inquiet en disant « Papa mettra jamais ce foulard ». Il se fait emmener par un ami, et puis en arrivant près de la maison, il ferme les yeux et il dit « Dis-moi, est-ce qu'il y a un foulard devant la maison ?» Et son ami répond « Non. » Il y en a des centaines sur tous les pommiers qui séparent l'entrée de la maison. Là. Donc voilà, Dieu fait miséricorde et il nous appelle. Il nous appelle. Dans la parabole du fils prodigue, on le perçoit pas bien, hein. Souvent, on le rate, cette histoire-là. Mais le fils prodigue, celui qui est parti loin, le jeune, il plonge en lui-même et en fait, il rencontre l'Esprit Saint qui va le. Oui, je me leverai, j'irai vers mon père. Et son père est sur la porte de la maison et l'attend et le voit venir au plus loin. En fait, c'est le père qui l'appelle. Et puis, le fils aîné, qui est dehors, qui ne veut pas rentrer, le père sort. Viens, rentre, mon fils. Alors, le père, l'Église, c'est pas un club de parfaits. C'est pas un club de gens remarquables. Non, non, non. On est surtout des pécheurs pardonnés, une bande d'éclopés qui savons qu'on est appelés et aimés. On peut aussi se présenter un peu comment s'appelle, des aveugles qui sont conduits par des ingambes qui n'ont pas de jambes. Des cul-de-jatte, c'est ça. Les aveugles guidés par des cul-de-jatte. L'aveugle a besoin du cul-de-jatte pour voir et le cul-de-jatte a besoin de l'aveugle pour marcher, quoi. De fait, on est tous pas très brillants, mais ensemble, on peut arriver à quelque chose, quoi. Alors du coup, d'où la nécessité et l'importance de la vie, du rendez-vous dominical, hein, du rendez-vous du dimanche matin. Et là, il n'y a pas très longtemps, là, j'ai rencontré un monsieur, très gentil par ailleurs, hein. Il dit, moi, je suis chrétien, moi, je viens pas le dimanche. Hein. Mais bon, je viens déposer mon lumignon 3 fois par semaine. C'est beau, et puis je pense qu'il prend le temps pour voilà. Mais, voilà, du fait, il y a certainement une relation entre le Christ et lui, et tant mieux, réjouissons-nous. Mais il y a un pas encore à faire, quoi. Parce qu'il a quelque chose à m'apporter que pour l'instant, il ne peut pas m'apporter. Et puis peut-être que j'ai quelque chose à lui apporter que je peux pas lui apporter non plus. À la question est-ce que et toi tu vas à l'église? Ah non, je vais pas à l'église, je suis l'église, donc elle a besoin de moi quand même. Nous sommes l'église. Voilà, et pour revenir à l'introduction, hein, qui était la citation du Concile de Vatican II, l'Église, c'est le ciel qui se laisse entrevoir sur la terre, ou le ciel qui se laisse refléter sur la terre. Mais pour ça, il faut accueillir ce qui est le premier chapitre du Concile Vatican II, de Lumen Gentium, c'est que l'Église est un mystère, c'est-à-dire que c'est Dieu qui en est l'origine, quoi. C'est pas une institution humaine. Même s'il y a plein d'hommes dedans, et donc plein d'humanité. Alors, quelle heure est-il? J'ai pas prévu. 21h15. Ah, je peux vous laisser. On peut se laisser un petit quart d'heure pour réfléchir à la question. Tiens, comment est-ce que l'Église est une? Comment l'Église est sainte? Comment l'Église est catholique? Comment l'Église est apostolique? Normalement, ça... Non, en fait, il y a pas mal de choses qu'on peut recouper. Il reste peut-être des questions, donc c'est l'occasion de les poser.